Bonjour, ici Europe numéro 1.
Voici le deuxième épisode de ma série sur l'année 1957. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le monde face à une épidémie de grippe asiatique. Une erreur d'aiguillage qui tue 30 personnes. Fernandel qui rayonne. Et François Sagan qui frôle la mort dans un accident de voiture.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1957.
En 1957, dans les cinémas, au moment des actualités, les Français découvrent qu'en Asie, les Chinois et les Japonais sont touchés par une épidémie. Une épidémie de grippe asiatique.
Devant l'ampleur de la grippe asiatique, les écoles de Tokyo et d'Osaka ont été fermées. Mais l'épidémie a poursuivi ses jeunes proies dans les trains. Les lavabos ont dû être affectés aux séances de gargarisme. À chaque gare, les employés ont apporté la glace qui devait aider au soulagement des fiévreux, tandis que l'arrêt était mis à profit pour des exercices prophylactiques collectifs. Et le nombre des wagons transformés en chambres d'hôpital augmente d'heure en heure. L'inquiétude est grande au Japon devant le développement menaçant du fléau.
Pour tenter de comprendre cette maladie, Europe numéro 1 interroge un médecin de l'aéroport d'Orly.
Le docteur Boré est médecin-chef consultant de la police sanitaire aux frontières de la région de Paris, c'est-à-dire qu'il a sous son contrôle l'aéroport de Paris, et je vais lui demander tout de suite qu'est-ce que la grippe asiatique.
La grippe asiatique est une maladie qui nous vient d'Extrême-Orient et qui aurait pris son origine du côté de Hong Kong ou même du côté du Japon.
Quelles sont les mesures, docteur, prises contre cette grippe asiatique ?
Mais voyez-vous, il n'y a pas de mesure spéciale à prendre. Si elle fait des ravages, peut-être considérables, en Asie ou dans les pays sous-développés, elle ne peut pas faire de ravages dans nos pays. Nous sommes à même de savoir de la soigner, mais nous sommes aussi à même de pouvoir la dépister. Et ce que nous faisons en ce moment est bien suffisant pour vous protéger tous de la grippe qui ne sera certainement pas une grippe assassine.
Le médecin assure que la France est à l'abri. Aux frontières, chaque passager est surveillé. Il doit être vacciné contre la grippe. La grippe ordinaire, bien sûr. Parce que pour la grippe asiatique, on n'a pas de vaccin.
Attention, s'il vous plaît, arrivez dans quelques minutes du vol 803 de la TWA en provenance de Colombo et Bombay.
À la suite des déclarations du docteur Boré, je me suis rendu à Orly, où je me trouve dans le hall. En effet, un avion en provenance de Colombo est attendu et ses passagers vont être soumis au contrôle de santé.
Veuillez présenter vos certificats de vaccination, s'il vous plaît. Will you please show your vaccination certificate, please? Presenten su certificados de vacuna, por favor.
Je vais demander à l'officier du service de santé de me préciser en quoi consiste cet examen.
Et monsieur, le fonctionnaire que vous avez ici à ce guichet est en train de contrôler les certificats de vaccination des passagers qui arrivent de Colombo. Et je suis ici pour accueillir une passagère qui nous a été signalée par le personnel complémentaire de bord comme ayant eu un malaise prolongé pendant son vol. Excuse me, you speak French, miss?
Oui, un petit peu.
Vous avez été signalée comme ayant eu un petit malaise. Est-ce que vous voulez me suivre? J'ai quelques questions à vous poser au sujet de ce malaise.
Oui, monsieur, oui.
Il s'agit bien sûr de vérifier si cette passagère en provenance du Sri Lanka a ou n'a pas la grippe asiatique.
Les premiers symptômes que vous avez éprouvés, c'est longtemps après l'envol?
Oh, à peu près une heure, docteur. Oh, j'avais le mal aux tempes, mal au cœur, je ne pouvais pas très bien respirer.
Et est-ce que les symptômes se sont majorés lorsque l'avion a modifié son altitude, à l'atterrissage par exemple, en arrivant à Orly?
Oui, c'était terrible, docteur, l'atterrissage.
Voulez-vous passer le cétoscope, s'il vous plaît? Respirez. Dites 33.
33.
Eh bien, les champs pulmonaires sont entièrement libres. Je crois, madame, que vous n'avez rien à craindre. Et je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle habituellement le mal de l'air.
Je m'excuse, docteur, mais si cette malade avait présenté quelques symptômes de grippe, qu'auriez-vous fait?
Eh bien, nous aurions d'abord essayé de faire le diagnostic de grippe. Et si ce diagnostic s'était affirmé, nous l'aurions dirigé vers un centre spécialisé de Paris. De toute façon, cette grippe n'est pas actuellement, dans ses formes connues, une affection extrêmement grave.
Eh bien, je vous remercie, docteur, de nous rassurer.
Mi-juin 1957, le secrétaire d'État à la santé publique annonce « Aucun cas n'a été signalé en France. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir. Mais il est démenti 3 jours plus tard, car de nombreux cas sont signalés dans une école de Moselle, à Sarreguemines.
Nous avons eu comme malades 350 environ.
Sur un effectif de combien ?
De 750 environ.
Monsieur le proviseur, des membres du personnel ont-ils été atteints par la grippe asiatique ?
Nous manquons de professeurs de sciences, surtout de mathématiques. Et avec cette grippe, nous sommes arrivés à ce résultat. Il a manqué d'abord 10, puis il y avait 2 instituteurs sur 5. Et puis, il faut bien manger. Malheureusement, dans la cuisine également, le personnel flanchait. Et sur 15 agents que nous avons, il y en avait 9 qui étaient absents par la grippe. Et encore, à l'heure actuelle, ils sont retenus dans leur lit.
Je vous remercie, monsieur le proviseur.
C'est le premier cluster de grippe asiatique en France. Et c'est très inquiétant.
J'ai maintenant près de moi une élève du lycée de Sarreguemines. Mademoiselle, comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Josette Fritz.
Quel âge avez-vous, mademoiselle ?
16 ans et demi.
Et vous avez été atteinte par la grippe asiatique ?
Oui, les premiers jours, j'avais très mal à la gorge et à la tête aussi. Et ensuite, j'ai dû rester 5 jours alité.
5 jours alité, vous aviez des courbatures, vous aviez la fièvre.
Oui, bien sûr.
Combien de fièvre ?
Jusqu'à 40 de fièvre.
Jusqu'à 40 ?
Oui, surtout, et il ne faut pas sortir et rester longtemps à la maison, à l'intérieur.
C'est le conseil que vous donnez aux enfants qui sont actuellement victimes de la grippe.
Je leur souhaite bon rétablissement et surtout qu'ils ne craignent rien.
Et qu'ils ne craignent rien.
Ils suivent bien les prescriptions de leurs parents et du médecin.
Eh bien, c'est très bien. Je vous remercie, mademoiselle. Ici Pierre Robic qui vous a parlé de Sarreguemines, Europe numéro 1.
En vérité, il n'y a pas que Sarreguemines qui est touché. Durant l'été 1957, la grippe asiatique se propage dans le monde entier.
Docteur, qu'en est-il de l'épidémie actuelle ?
Dans tous les pays, pratiquement, les poussées épidémiques les plus importantes sont apparues dans
des communautés
plus ou moins fermées, écoles, navires, installations militaires, camps de vacances, etc. Et il va sans dire que c'est à partir de ces communautés qu'ensuite la maladie s'est répandue.
Quel est le point que vous pouvez faire ?
Vous la voyez en Suède, vous la voyez en Grande-Bretagne, également au Portugal, en Grèce, jusqu'en Afrique occidentale française. Elle continue dans la plupart des pays qui ont été atteints en dernier lieu, c'est-à-dire en Afrique comme dans les deux Amériques. Et au contraire, elle est en voie de décroissance très nette en Asie où dans beaucoup de pays déjà, il n'y a plus un seul cas de grippe.
Les États-Unis tentent de trouver rapidement un vaccin. Des détenus du Maryland servent de cobayes. Mais à la rentrée 1957, toujours pas de vaccin. En Europe, le pays le plus durement touché est l'Italie. Des écoles ferment, des hôpitaux affichent complets. Et l'exemple italien ne rassure pas les Français.
Ici John Pazetti qui vous parle de Rome. La situation à la suite de l'épidémie de la grippe asiatique à Rome et en Italie en général devient toujours plus angoissante. Hier au soir, après une réunion houleuse qui s'est déroulée à la préfecture, la décision de retarder d'un mois la réouverture des écoles a été prise. En quelques mots, la situation ce soir à Rome est la suivante. 100 000 cas de grippe asiatique officiellement dénoncés, mais 450 000 personnes sont effectivement atteintes par cette épidémie. Les cas mortels sont aujourd'hui plus de 100. Malgré les 70 000 doses de vaccins anti-asiatiques distribuées à la population. Durant la prochaine nuit, plus de 10 000 personnes seront encore vaccinées. Même la cité du Vatican n'a pas été épargnée par ce fléau et plusieurs sont les prélats alités. Sa sainteté le pape, qui réside encore à Castel Gandolfo, a refusé le vaccin, mais sa demeure a été désinfectée. Plus de 70 députés sont atteints de la fièvre asiatique et l'on envisage déjà la fermeture de la Chambre des députés. Un hôpital pour enfants, et plus précisément l'Ospedale del Bambino Gesù dans un quartier populaire de Rome, est cerné par la police qui empêche d'en sortir ou d'y entrer la foule de parents des enfants malades qui stationne jour et nuit devant ce monumental hôpital. Ici John Pazetti qui vous a parlé de Rome, Europe numéro 1.
Compte tenu de ce qui se passe en Italie, la France change de ton. Fin septembre, les écoles ferment. Et chez nous aussi, on espère un vaccin. Mais ça prend du temps.
Au point du vaccin, tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que il faut du temps pour produire un vaccin contre un nouveau virus. Le virus auquel nous avons affaire est nouveau. Par conséquent, il a été impossible de commencer à le cultiver, à le stériliser, à le mettre en ampoule, avant qu'il n'ait été cultivé tout d'abord et que ces cultures aient été disséminées dans tous les laboratoires qui sont susceptibles de fabriquer du vaccin. Il ne faut pas que la population des divers pays s'étonne si, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de mettre à sa disposition un nombre considérable, ce qui signifierait des millions et des millions de doses de vaccins contre ce nouveau virus, puisque ce virus est apparu depuis somme toute peu de temps et qu'il faudra peut-être des semaines ou des mois pour que dans les pays les plus avancés au point de vue de la production industrielle des vaccins, on arrive à mettre à la disposition de la population, comme des hôpitaux, des quantités appréciables de vaccins.
Eh bien, je vous remercie, docteur. Ici Henri Stadelhoffen, qui vous parlait du studio des Nations Unies à Genève, Europe numéro 1.
La pandémie de grippe asiatique s'éteindra finalement d'elle-même en 1958. Elle aura fait 15 000 morts en France et plus d'un million de morts dans le monde.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
En 1957, on n'a pas trouvé de vaccin contre la grippe asiatique. En revanche, on est sur le point de vaincre un virus qui tue depuis 20 ans, la poliomyélite. Le professeur Pierre Lépine de l'Institut Pasteur vient de mettre au point un vaccin.
Dans quelles conditions doit-on faire vacciner un enfant et êtes-vous partisan d'une campagne de vaccination systématique ?
Il n'y a aucun inconvénient à vacciner. Par conséquent, je suis, et ceci ne vous étonnera pas, pour la généralisation de la vaccination. Je dis bien généralisation, je ne dis pas obligation. Il s'agit d'une maladie dont l'incidence épidémique est relativement faible et je ne vois aucune raison à la situation française pour imposer la vaccination, comme cela a malheureusement dû être fait dans certains pays comme le Danemark où il a fallu vacciner jusqu'à 98,5% de la population de 1 à 40 ans. Ceci dit, toutes les familles redoutent le risque de la paralysie et ce risque augmente inévitablement, comme je vous l'ai dit. Je crois par conséquent qu'il est important de vacciner les enfants et de les vacciner tôt, c'est-à-dire de les vacciner vers la première année. Cela restera une question d'opinion individuelle, mais je crois que dès à présent, il y a deux types de sujets dans la population qu'il faut vacciner. Les premiers, ce sont les femmes enceintes, et les seconds, ce sont les enfants avant une intervention portant sur le rhinopharynx.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be. Future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Said I, said I, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
C'était « Que sera, sera » par Doris Day, numéro 1 en France en 1957. Cette chanson, écrite sur demande d'Hitchcock, pour le film « L'homme qui en savait trop », sorti un an plus tôt.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
Le 19 juillet 1957, le rapide numéro 20 Vintimille Paris, surnommé le Paris Côte d'Azur, déraille en gare de Bolène, à 20 km de Rouen.
Ici Georges Dodon qui vous parle de Bolène.
de Bolène où depuis 2 heures ce matin, des hommes à coups de chalumeaux, à coups de piques, avec des grues, s'attaquent à un amoncellement de ferraille, tout ce qui reste du rapide 20 000 Paris qui a déraillé à quelques 100 mètres de la gare de Bolène vers 1h15 ce matin. À quelques centaines de mètres de là, dans un décor baigné d'une lumière presque méridionale où éclatent les taches jaunes des soleils parsemant les champs, les voitures des vacances se suivent sur la route nationale 7. Maintenant, 3 wagons ont été retirés et les seules nouvelles valables que l'on puisse attendre sont celles des hôpitaux d'Avignon, d'Orange et de Montélimar où sont dispersés les blessés.
Le train était bondé. Le bilan s'annonce terrible. Sur place, le journaliste d'Europe numéro 1 recueille une histoire invraisemblable.
Par exemple, l'histoire de cet homme en bleu, maculé de sang, qui, hébété, vint frapper à la porte d'un hôtel situé à 500 mètres de l'accident et qui demandait où était sa locomotive. On peut supposer, bien sûr, qu'il s'agissait là du mécanicien dont le corps, on le sait, n'a pas encore été retrouvé et qui, à l'heure où j'effectue ce reportage, erre peut-être dans quelques forêts d'alentour.
Les 7 wagons du train sont totalement sortis des rails alors qu'ils ne roulaient pourtant qu'à 30 km/h. Un autre reporter d'Europe numéro 1 livre les premières hypothèses sur ce déraillement.
D'après les dernières conversations que j'ai eues avec les enquêteurs, qu'ils soient de la police ou de la SNCF, il semble que, comme très fréquemment dans les catastrophes ferroviaires, c'est la conjugaison de différentes fautes ou incidents qui a abouti à la catastrophe. Le train Paris-Côte d'Azur était précédé d'une rame de messagerie. Et cette rame de messagerie, pour laisser la voie au Paris-Côte d'Azur, suivie du train bleu, devait être garée à la gare de Bolène-la-Croisière. L'ordre a été donné à l'aiguilleur, peut-être un peu tard. Toujours est-il que le train de messagerie avait passé lorsque le Paris-Côte d'Azur a trouvé la voie de garage ouverte à son intention, alors qu'elle n'était pas destinée.
Mais alors à quelle vitesse est-il entré dans la
95 km à l'heure.
Alors que cette voie ne supporte une vitesse
30. D'abord sur l'aiguille, il a sauté, et ensuite, je crois que très rapidement, la voie s'est déformée sous la vitesse, et c'est là qu'il a capoté dans le champ de blé voisin.
C'est un passager projeté hors du train et en état d'hébétude qui a donné l'alerte. Il est allé frapper chez Madame Laugier, restauratrice.
Madame Laugier, vous avez été, en fait, absolument la première personne à être au courant de la catastrophe.
Oui, je suis été la première personne parce que vers les 1h15 à peu près, il s'est présenté un monsieur qui était désemparé, blessé, en pyjama, pieds nus. Il s'est présenté au bar. Alors je lui ai demandé ce qui c'était. Il me dit, un accident, nous avons déraillé, le train a déraillé. Mais je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai vite appelé mon fils, qui a pris sa moto et est allé voir.
Alors Jean-Claude Laugier, étiez-vous le premier sur le lieu de la catastrophe?
Comme j'arrivais avec la moto, j'ai posé ma moto, j'allais parler à la gare de barrière et il y a eu une grande explosion. C'était sûrement la chaudière de la locomotive qui explosait. Alors quand j'ai vu qu'il y avait une explosion et des flammes, j'ai pensé qu'il y avait un incendie. J'ai repris ma moto. Je suis retourné chez moi, j'ai averti tous les voisins, nous avons pris des extincteurs, tout ce qu'il fallait pour éteindre l'incendie, et nous avons pris la voiture, nous sommes rendus sur les lieux.
Mais vous n'êtes pas bien sûr que les wagons étaient enchevêtrés à ce moment-là, si déjà?
Ah si, aussi, tout en dessus, dessous. Il y a la locomotive qui est en travers de la route, nous avons vu des wagons dans les champs, qui se montaient un dessus de l'autre.
Alors les voyageurs?
Ah les voyageurs criaient, c'était affreux, c'était horrible. Ensuite, nous sommes rendus alors sur les lieux, avec des lampes, et nous avons vu tous les voyageurs qui étaient dans les wagons, quoi, qui criaient, ça hurlait. Seulement, on ne pouvait rien faire parce qu'avec des torches, on y voyait à peine.
Le bilan de cet accident est très lourd. 30 morts et 80 blessés.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
C'était I Walk the Line, titre incontournable de l'américain Johnny Cash, sorti en 1957.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
En 1957, l'acteur Fernandel est au sommet de sa gloire. Cette année-là, il est la vedette de 5 films, dont Sénéchal le Magnifique. Fernandel y incarne un comédien de théâtre raté.
Alors, mon vieux, alors... Votre moteur est complètement bousillé, mon pauvre monsieur. D'abord, ce n'est pas mon moteur et je ne suis pas votre pauvre monsieur. Je suis monsieur Sénéchal. Ça ne vous dit rien, non? Sénéchal?
Les amortisseurs Sénéchal?
Dans Dambéluse, on met 20 ans pour se faire un nom de comédien, pour entendre ça. Les amortisseurs Sénéchal. Qui est Brigitte Bardot? Une vedette de cinéma. Voilà pourquoi le café est foutu. Et cette bagnole aussi, d'ailleurs.
Quand Fernandel n'est pas sur un plateau de cinéma, il est sur un plateau de télévision. L'émission vedette de l'époque, 36 chandelles, lui consacre une émission spéciale le 1er avril 1957.
Je suis adoré de Philomène, j'en reviens pas, j'en suis tout saisi. Des soldats, il y en a des centaines. Eh ben c'est moi qu'elle a choisi. C'est que c'est pas la femme ordinaire qui n'a que sa grâce et ses appâts. Elle a quelque chose de plus pour plaire, quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a de la barbe, Philomène. Elle ressemble à mon capitaine. Quand nous nous promenons, les passants se retournent tout en la regardant. Elle a de la barbe et sur la place, on dit tiens, là-bas qu'elle passe. Et ça me flatte énormément, vu que c'est moi que je suis son amant.
Fernandel n'arrête pas. Et maintenant, il est même attendu outre-Atlantique. Sauf qu'il ne peut pas prendre l'avion.
Parce que d'abord, ça m'est interdit par mes assurances de film. Car on tient beaucoup à ma figure, j'ai qu'une physionomie, il faut qu'elle me fasse encore plusieurs saisons. Mais en plus que les assurances m'interdisent de prendre l'avion, enfin, ils ne m'interdisent pas, en payant une prime supplémentaire, on pourrait prendre l'avion. Enfin, le producteur n'y tient pas, et moi non plus. Alors comme moi, je n'y tiens pas, non, c'est pas que j'ai peur, j'ai la frousse, voilà.
Mais finalement, Fernandel va vaincre sa frousse, puisqu'il est question qu'il aille à New York.
Et vous allez faire quoi à New York ?
Exactement, je ne le sais pas, mais je suis invité par mon ami Mike Todd, qui donne une grande réception à l'occasion de l'anniversaire d'une année de passation du Tour du Monde en 80 jours. Or, dans cette soirée d'invités, du monde entier d'ailleurs, il a eu la gentillesse de penser à moi, car je suis son futur interprète dans Don Quichotte l'année prochaine, que nous commençons en Espagne au mois de mai, et arrivé en Amérique... Après les salutations d'usage, j'apprendrai exactement ce qui se passera l'année prochaine dans le tournage de Don Quichotte. Je connaîtrai mes partenaires, car à part Elizabeth Taylor, qui naturellement est du voyage, je parle de celui en Espagne l'année prochaine dans Don Quichotte, je ne connais absolument rien de la distribution et je ne peux rien vous en dire.
Vous, bien sûr, Fernandel, vous serez Don Quichotte.
Ah, naturellement, sans ça, je n'aurais pas signé le contrat, ce n'était pas Don Quichotte. D'ailleurs, jamais Mike Todd m'aurait proposé autre chose, n'est-ce pas? Je ne crois pas parce que...
Sancho Panza, ça vous intéresse pas.
Il manquerait d'ailleurs la bedaine pour ça.
Et qui sera Sancho Panza?
Peut-être qu'à mon retour à New York, je pourrais vous donner le filon, mais pour l'instant, je ne le sais pas.
Et ce retour, ce sera quand?
Je rentrerai en France le 25 pour repartir sur Marseille le 25 au soir et rejoindre Rome le 27 de ce mois-ci pour commencer La Loi, c'est la loi, sous la direction de Christian Jacques.
En 1957, Fernandel a donc peur de l'avion. mais c'est en voiture qu'il se fait une très grande frayeur.
C'est au studio Saint-Maurice que nous avons pu joindre Fernandel. Fernandel qui termine en ce moment le chômeur de Clochemerle. Eh bien, mon cher Fernandel, comment s'est passé cet accident ?
Écoutez, d'abord, excusez-moi d'abord si je vous parle un petit peu de travers, comme on dit à Marseille, mais j'ai un peu le rein droit qui me fait mal, car cet accident n'a pas été grave, heureusement, mais j'ai risqué l'accident mortel. Je rentrais avec mon chauffeur tranquillement, hier à Carry-le-Rouet, lorsque, à l'embranchement de la route de Marignane, une voiture Versailles, qui venait vers nous, a brusquement dérapé, ou, un coup de volant malheureux du conducteur, nous est rentré dedans. Mon chauffeur a eu la présence d'esprit de ne pas freiner ni de ne débrayer. Mais nous avons sauté un talus de 2,50 m à peu près. Or moi, chaque fois que je retourne du studio ou de l'extérieur, je m'allonge derrière la voiture. Je n'ai pas vu l'accident, mais je l'ai senti. Et brusquement, au choc, et dévaler les 2,50 m de pente sur des pierres pour aller atterrir dans des vignes, allant à droite, à gauche... Et je me suis retrouvé un peu pâle au milieu des vignes avec des cris et des hurlements des gens qui m'avaient reconnu en passant et qui croyaient que ma Cadillac allait être pulvérisée. Ce qui n'était pas le cas grâce au sang-froid de mon chauffeur d'ailleurs à qui je rends hommage aujourd'hui.
Fernandel et son chauffeur s'en sortent sans une égratignure. Ils l'ont échappé belle.
Or je suis rentré hier à Carry-le-Rouet immédiatement après, ramené par un monsieur pour avertir la gendarmerie et voir un docteur. Et ce docteur m'a dit « je ne vois pas de cassure ». Du moment que vous ne hurlez pas. Mon fils, qui maintenant a 21 ans, m'a remplacé, est allé sur le lieu de l'accident avec la gendarmerie de Carry-le-Rouet. Et on a fait le constat. Naturellement, le monsieur a reconnu qu'il avait tort. Il a dit à mon fils, « Eh bien, oui, regarde un peu, j'aurais pu tuer votre père, je semblerais faire une bonne publicité. Voilà. »
En matière d'accident, mon cher Fernandel, peut-on parler de baptême ?
Oui, c'est un baptême. Mais j'espère que ce sera le seul baptême, parce que je ne tiens pas à en avoir d'autres. La semaine prochaine, à Carry-le-Rouet, j'irai taquiner la Rasquesse et la Girelle, en espérant d'en prendre beaucoup, et oublier ce petit incident, je ne dirais pas technique, mais cinématographique.
Ici Tourski, Europe numéro 1.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1957.
Le dimanche 14 avril 1957, Françoise Sagan rejoint en voiture sa propriété de Milly-la-Forêt dans l'Essonne. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Elle est dans son cabriolet Aston Martin et elle a embarqué trois amis. Et elle roule vite. Et soudain, dans un virage de la Nationale 448, elle perd le contrôle de son cabriolet dans un virage. Après deux tonneaux, la voiture de l'écrivaine s'écrase dans un champ de blé. Tous les passagers ont été éjectés de la voiture, sauf Françoise Sagan. L'écrivaine est en sang, inconsciente, prisonnière de la carrosserie de son Aston Martin. On craint de ne pas pouvoir l'extraire de l'habitacle. Un prêtre est même appelé pour lui administrer les derniers sacrements.
Monsieur Bernheim, vous étiez dans la voiture qui suivait celle de Françoise Sagan. Vous étiez avec M. Dassin et vous rendiez à Milly, à ce déjeuner, vous y étiez tous invités.
Oui.
Alors, vous étiez à 300 ou 400 mètres derrière.
Oui, mais il y avait un virage avant, c'est pour ça qu'on n'a rien vu du tout.
Et quand vous êtes arrivé, la voiture était complètement retournée.
Oui.
Et à ce moment-là, qu'avez-vous fait ?
On a vu le campion qui était dans un champ, les deux autres garçons qui étaient dans le fossé et elle qui était sous la voiture. On a essayé de soulever la voiture. M. Dassin et moi, on n'est pas parvenu jusqu'au moment où des hommes nous ont aidés à soulever la voiture et la sortir de... dessous de la voiture.
Et ça a duré combien de temps ?
Avant la sortir ? Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure.
Ensuite, vous l'avez transporté en ambulance ici ?
C'est ça.
Et ici, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'a diagnostiqué le professeur Lebeau qui l'a examiné ?
Elle était sous la tente et dans l'oxygène.
Tente d'oxygène.
Il ne pouvait pas diagnostiquer quoi que ce soit, je crois, jusqu'à maintenant. Elle a reconnu son frère vers 5 heures du matin. Alors, elle est sortie du choc et ses membres ont l'air de fonctionner. C'est son esprit aussi.
L'un des passagers éjectés et l'écrivain Valdemar Lestienne. Il raconte sur Europe numéro 1.
On n'allait pas très vite encore, et puis j'ai plus rien vu. La voiture subitement, tout d'un coup, s'est mise à flotter. J'ai vu le fossé sur ma gauche, puis sur ma droite, puis sur ma gauche, puis sur ma droite, puis en face de moi. Alors les roues avant sont tombées, la voiture s'est renversée, c'est tout ce que je me rappelle. Un coup dans la tête, je suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais à côté de Françoise, qui on tenait la langue pour l'empêcher de s'étouffer parce qu'elle s'engorgeait tellement elle était pleine de sang. Et elle était déjà livide. Son visage était affreux à voir. Et puis, quand je me suis réveillé une seconde fois, j'étais là dans l'ambulance des gendarmes, assis à côté d'elle, et elle était sur la civière. Elle râlait, et quand je me suis réveillé une troisième fois, j'étais sur le lit à l'hôpital.
En réalité, Françoise Sagan roulait beaucoup trop vite, 160 km/h. Le lendemain de l'accident, ouf, elle est hors de danger, mais elle reste sous surveillance.
À l'instant, un médecin sort de la clinique. Nous allons lui demander une déclaration.
Well, the same thing, that she's better, but that we must wait 2 or 3 days, that's all.
Ce qui veut dire en fait le mieux constaté cette nuit continue, mais il faut se prononcer avec beaucoup, beaucoup de prudence et attendre. Docteur Schwartz, vous venez de voir Madame Françoise Sagan, votre diagnostic ou plutôt, si c'est impossible, votre pronostic.
Eh bien, on peut résumer la situation de la façon suivante. Hier, c'était dramatique. Aujourd'hui, ça n'est plus dramatique, mais c'est sérieux encore. Malgré l'amélioration considérable, nous sommes obligés d'attendre encore 2 ou 3 jours avant d'avoir une impression définitive. Nous n'avons pas de décision chirurgicale à prendre.
Avant 2 ou 3 jours.
Avant 2 ou 3 jours. J'espère bien que même dans 2 ou 3 jours, nous n'aurons pas à en prendre. Voilà. Il n'y a pas de preuve du tout qu'elle ait une fracture du crâne. Elle a certainement eu une commotion importante, mais les examens qu'elle a subis aujourd'hui n'ont pas montré du tout de fracture importante en tous les cas.
L'écrasement de la cage thoracique n'est pas prouvé non plus?
Ah si, 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 non, ça c'est autre chose, je parlais du crâne, naturellement.
Et fracture du poignet gauche, je crois, également.
Oui, c'est ça.
Mais enfin, c'est anodin, cela.
Oui, oui, ça n'a aucune espèce d'importance.
Oui. Mais enfin, à votre avis, qui est toujours réservé, bien entendu.
Oui, 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 beaucoup.
Il n'apparaît pas qu'il puisse y avoir danger immédiat.
Sûrement pas.
Sûrement pas.
Sûrement pas.
Merci, docteur.
Il faut dire qu'en 1957, Françoise Sagan, qui n'a que 21 ans, brûle la chandelle par les deux bouts. Elle est dépensière, elle est excessive, elle est passionnée de vitesse et de sport automobile. Après 16 jours de surveillance, elle sort de l'hôpital sur ses deux jambes. Et un mois seulement après l'accident, le jour du baccalauréat, Françoise Sagan est sur Europe numéro 1. Fernand Choisel l'appelle pour réagir au dernier sujet du baccalauréat.
Françoise Sagan, quand avez-vous passé votre baccalauréat ?
J'ai passé le premier en 52 et le second en 53.
Vous connaissez les 3 sujets qui ont été désignés pour les candidats de cette année.
Oui.
Quel est le sujet que vous auriez choisi ?
J'aurais pris le 3e, je crois.
C'est-à-dire Stendhal, qui écrit à Balzac. On me dit depuis 1 an qu'il faut quelquefois délasser le lecteur en décrivant le paysage, les habits, ces choses m'ont tant ennuyé chez les autres. Pourquoi auriez-vous choisi ce sujet ?
D'abord parce que c'est le seul que je trouve vraiment assez amusant, enfin assez intéressant. J'aime pas le premier, j'aime pas le second.
Et dans la foulée, en direct, Sagan se lance dans une dissertation.
Il y a dans cette phrase de Stendhal, les habits, les paysages, toutes ces choses m'ont tant ennuyé chez les autres. Que pensez-vous de ces appréciations de Stendhal ?
Ben moi je trouve ça assez juste, parce que moi aussi ça m'ennuie. Et j'aime mieux aussi les livres qui sont complètement dépouillés, vous savez. Je sais pas, comme Adolphe ou des choses comme ça. Mais à la fois, je trouve que ce n'était enfin, excusable ou pas ça, que chez des romanciers qui ont un espèce de souffle différent, enfin. Vous voyez qu'ils ont un rythme différent d'écriture. Justement, Balzac avait ça, enfin, cette espèce de description qui fait que les choses et les gens ont l'air de sortir des choses plutôt que le contraire. Oui.
En 1957, Françoise Sagan est une écrivaine adulée. Elle est une star. Et en août 1957, son premier roman, Bonjour Tristesse, qui est le récit phare sur la jeunesse des années 50, est adapté au cinéma par Otto Preminger.
Ça n'a pas été facile pour vous d'avoir les droits, parce qu'il y a eu une grande bataille pour ça.
Grande concurrence, mais à la fin, j'ai gagné par payer beaucoup d'argent. C'est très facile. Si on paye, on gagne.
Quand est-ce que vous êtes intéressé?
Particulièrement ici. You know. Ici, et dans cet endroit ici, on paye et on perd.
Il faut pas dire ça aux pauvres producteurs français qui pensent qu'ils ne pourront plus jamais avoir un livre de Madame Sagan et ils vont être trop tristes.
Well, elle voulait avoir un film international, un film américain, et pas un film seulement français ou anglais ou allemand. C'est la raison pour laquelle elle a choisi de vendre les droits à un producteur américain.
Pour tourner ce film, Otto Preminger voulait Brigitte Bardot dans le rôle principal. Mais elle a refusé. Alors il a fait appel à l'américaine Jean Seberg et à l'une des rivales de Bardot, la niçoise Mylène de Mongeau. Et la chanson du film est signée Juliette Gréco.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, amie qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse, tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne. Et toi, tu n'oublies jamais. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour. Et j'ai trop de faiblesse pour te quitter, ma tristesse.
C'était Bonjour Tristesse par Juliette Gréco qui signe la bande originale du film du même nom, adapté du premier roman à succès de Françoise Sagan. Et c'est la fin de cet épisode consacré cette semaine à l'année 1957. Boris Paczynski signe la réalisation. Remerciements à Sylvain Denis et à son équipe, à la documentation d'Europe 1. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1957 dans le troisième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.